Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est beau micro, on va passer une heure ensemble. N'hésitez pas à nous rejoindre directement sur le live YouTube et sur le chat de la radio. Et attention, d'abord, générique. Pourquoi le voilà.
Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Trompez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images du manga, du comics et de la BD franco-belge. Ce soir, je ne suis pas tout seul, je suis avec Florence. Ça va Florence ?
Ça va très bien, merci.
Je suis aussi avec Fabien.
Salut tout le monde, ça va bien.
Je suis également avec Bruno.
Salut la compagnie.
Et nous sommes aussi tous les quatre, du coup, je ne sais plus compter, en compagnie d'Olivier Martin, qui est notre invité du jour. Bonjour Olivier.
Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation.
Mais de rien. On parlera de toi un petit peu tout à l'heure et de ton activité sur les réseaux, où tu dessines, hein, c'est bien ça ?
Tout à fait. Je suis dessinateur de BD et j'œuvre aussi dans des carnets de croquis. Ben, on parlera de tout ça tout à l'heure.
On en reparle juste après. On va commencer directement avec Florence et les news. Qu'est-ce que tu as comme news aujourd'hui, Florence ?
Alors, je vais commencer par les j'en ai sélectionné trois. Donc, les 28 et 29 mars prochains se tiendra la 11e édition du Festival de l'illustration et de la BD du Pays d'Ancenis à l'Espace Landrin. 35 auteurs et autrices sont attendus, dont Matou, qui sera l'invité d'honneur et qui a réalisé la magnifique affiche fleurie et colorée de ce festival. Vous y trouverez également une quarantaine d'exposants, éditeurs, libraires, bouquinistes, associations, photographes et même des tatoueurs. Parmi les activités proposées, il y aura des battles de dessin, des visites commentées d'expositions, des défilés et concours de cosplay et plein d'autres animations. Vous pourrez assister également à la remise du prix BD du Pays d'Ancenis et du prix de l'illustration sur le thème « Le pouvoir des fleurs ».
C'est le printemps, c'est génial.
C'est ça.
Si, t'avais ton micro de coupé, je suis désolé.
L'entrée est de 5€ pour tout le week-end et elle est gratuite pour les moins de 15 ans. Deuxième festival, toujours à la même date, les 28 et 29 mars prochains donc. Vous pourrez vous rendre à la très belle abbaye de Cluny, en Saône-et-Loire, pour assister à la 28e édition de son festival BD, organisé par l'association des Gadzards de Cluny. L'entrée est gratuite et vous pourrez y retrouver une vingtaine d'auteurs et autrices qui vous feront découvrir leurs dernières nouveautés et qui auront le plaisir de vous signer des dédicaces lors de moments d'échanges conviviaux. Et notez qu'une partie du festival sera dédiée à l'univers des jeux de société.
C'est clean ça ?
Autre festival pour ce dernier week-end de mars, celui de Ligugé dans la Vienne, au domaine de Givray, qui abrite 180 hectares de forêt. Donc ambiance conviviale et nature garantie. Les invités d'honneur seront Maryse et Jean-François Charles, qui ont réalisé l'affiche du festival. Vous pourrez découvrir leur travail jusqu'au 4 avril avec une exposition d'une quarantaine de planches au dortoir des moines à Saint-Benoît, à côté de Ligugé donc. Et pendant le festival, une vingtaine d'autres auteurs et autrices sont attendus. Le festival mettra principalement l'accent sur les séances de dédicaces et les moments d'échange avec les artistes. Deux autres informations, les 48 heures BD qui se dérouleront les 3 et 4 avril prochains. Alors l'objectif de cet événement, c'est de faire découvrir un maximum de monde l'univers du 9e art à travers la vente à prix réduit de bandes dessinées. De nombreux points de vente et librairies seront concernées un peu partout en France et aussi en Belgique. Et il y aura également des animations et des moments d'échange avec des artistes. Retrouvez toutes les informations à ce sujet sur le site 48hbd.com et notamment la sélection 2026 des 10 titres BD, comics et mangas à 3 euros.
Parfait.
Il y a deux semaines, Seb, tu as dû évoquer le litige qui opposait Olivier Guay pour sa BD L'Académie Clair-Obscur, édité chez Dracou, et le studio Senfall Interactive, créateur du jeu vidéo Clair-Obscur Expédition 33. Donc ce dernier...
Oui, effectivement. J'ai hoché la tête, mais c'est pas très radiophonique.
Alors ce dernier, donc je parle de Olivier Guay, avait demandé l'arrêt... c'est le studio Senfall Interactive qui avait demandé l'arrêt de la vente de la BD, craignant une confusion avec le jeu qui porte le même nom. Eh bien, le studio a finalement retiré sa plainte. Pour rappel, Olivier Guay avait expliqué que son projet avait démarré en 2019 avec une validation du titre bien avant la sortie du jeu. Et on le félicite puisqu'il a pu prouver cela et il n'y aura donc pas de poursuite judiciaire.
Tant mieux si tout se réjouit, si tout se résout de manière amicale. Voilà. Je soulignerai que Sandfall a fait tout un communiqué en expliquant qu'il ne souhaitait absolument pas empêcher la créativité et que c'était certainement des avocats un peu trop zélés qui s'étaient lancés dans cette procédure-là. Bon, c'est la faute du stagiaire. Merci Florence pour ces news.
Merci à toi.
Avant de laisser place à notre invité, je voulais faire un petit focus sur les éditions Morgan, dont on avait parlé rapidement dans les news il y a ça quelques semaines, avant Noël de mémoire. Et pour ça, je vais parler de 4 de leurs albums, un que je n'ai pas et 3 que je vais avoir. Je pense que je reviendrai sur certains d'entre eux peut-être un petit peu plus tard. C'est une jeune maison d'édition qui a publié 4 ouvrages, alors 3 pour l'instant, un qui connaît un grand succès et un qui sort là très prochainement. Enfin, juste que je revérifie la date. Il y a d'abord, dans les premières sorties, il y avait Train de nuit dans la Voie lactée d'Adrien Démon, d'après Kenji Miyazawa. Je ne connaissais pas Kenji Miyazawa. Quand j'ai lu la fiche de presse, j'ai fait « Ah, c'est quand même dommage, puisqu'on l'annonce un petit peu comme étant l'auteur du Petit Prince à la japonaise. » Donc c'est un ouvrage Train de nuit dans la Voie lactée que tout le monde connaît au Japon. On l'évoquait avec Olivier tout à l'heure. C'est un livre que tu as lu.
Oui, tout à fait. Oui, il y a un certain nombre d'années maintenant. Oui, j'ai lu. Oui, tout à fait.
Et moi, je ne connaissais pas. Donc j'ai découvert et je me suis rendu compte que dans beaucoup d'œuvres que j'ai pu voir, il y a beaucoup d'inspiration, notamment le fabuleux Galaxy Express 1999 de Leiji Matsumoto, qui est certainement extrait ou au moins inspiré très grandement de cet ouvrage-là. Tu l'as lu aussi, Fabien,
oui,
de mémoire.
Oui, je l'ai lu, mais en numérique pour le coup. Et là, j'avoue qu'en voyant... vraiment le format, je me dis j'aurais bien aimé l'avoir entre les mains pour le lire parce que ça, les dessins sont vraiment très jolis en taille vraiment réelle comme ça.
Ouais.
C'est très très onirique. J'ai apprécié ma lecture. J'avoue que j'ai été un peu perdu par moment, mais je pense que c'est aussi le format qui veut ça. Moi, je suis pas du tout habitué à lire en numérique. En plus, là, c'est un PDF, donc c'est pas sur une tablette comme on peut avoir et tout ça. Mais pour le coup, j'ai été embarqué par moments, mais des fois un peu trop. Des fois, ça va loin, je trouve, dans l'onirisme.
Oui.
Mais c'est intéressant, en tout cas.
Est-ce que tu arriverais à résumer quand même globalement l'histoire ou pas ?
Oui, bah, globalement, on va suivre un petit garçon qui est un petit peu remis à l'écart des autres et qui a une amie. Et d'un seul coup, il va partir vers une sorte de rivière, on va dire. Et là, on va se retrouver plongé dans un train. Et dans l'espace. Et là, il va partir en voyage, un voyage onirique. Il va rencontrer d'autres voyageurs dans ce train-là. Et on va suivre son petit périple tout du long, comme ça, dans le cosmos. Et du coup, c'est vrai que c'est, pour le coup, vraiment très onirique. Mais c'est joli et c'est agréable. La lecture est très agréable.
C'est très fluide, mais effectivement, ça fait partie des choses. Il y a même des clins d'œil avec Ultraman à un moment. Ça fait partie des choses qui sont beaucoup dites, c'est que c'est un ouvrage où chacun peut le relire plusieurs fois et toujours y puiser autre chose, ou y comprendre d'autres choses. Il y a beaucoup d'interprétations faisables.
Énormément d'images. On peut se faire un peu ce qu'on veut dans notre tête avec toutes les images qu'on peut voir, hein, en effet.
Donc c'est vraiment très très cool. C'est déstabilisant. Si vous cherchez une BD qui va vous raconter une histoire qu'il faudra facilement suivre, c'est surtout pas celle-là qu'il vous faut. Par contre, si vous voulez interpréter des choses, comprendre des choses, vous laisser porter par de superbes images, clairement, allez-y, ça marche très bien. On a toutes ces teintes marron, bleu, d'un des foncés la nuit, quoi. Hein. Et ça marche très bien. Donc, c'est déstabilisant. Mais je pense que culturellement parlant, il nous manque certains codes, nous occidentaux, vu que c'est un ouvrage qu'on n'a pas lu étant à l'école. Donc voilà, c'est un des premiers ouvrages qui a été fait. Et on pourra noter qu'il y a une espèce de constante qui parle un peu d'onérisme chez Morgan, puisqu'on va aussi parler de Nocturnus, là qui va sortir, je vous redonne la date tout à l'heure. Nocturnus de Laura Pérez. Laura Pérez qui est qui est une dessinatrice qui a publié à peu près partout sauf en France. Maintenant c'est le cas maintenant c'est le cas avec ce que fait les éditions Morgan. Ça sort le 1er avril, donc on a un petit peu d'avance. Et de quoi ça parle? Eh ben, c'est un petit peu comme le train de nuit. C'est un peu compliqué à résumer. Je pense que c'est une ode à la nuit. Puisqu'à l'intérieur, en fait, on va nous faire découvrir la nuit sous toutes ses formes, sous le fait que les hommes sont censés avoir conquis la nuit. Il reste très peu de coins complètement obscurs qu'on ne peut pas éclairer, soit par l'éclairage public, soit c'est par l'éclairage des différentes terrasses, soit simplement avec une loupiote. Et pourtant, la nuit a sa propre vie. Quand on s'endort, il n'y a plus de lumière, on part en voyage, et en fait, on a plusieurs personnes qui vont avoir différents chemins oniriques qu'on va nous raconter à travers cet ouvrage-là. De la même manière que Train de nuit, si on veut une histoire simple à lire, c'est surtout pas ça qu'il faut. Par contre, on se laisse embarquer. Il y a aussi des belles planches, toujours dans des teintes nuit, des bleus nuit, des bleus sombres qui fonctionnent très bien. Et on a ce style très épuré qui donne vraiment cet effet onirique. On l'a pas beaucoup mentionné tout à l'heure, mais il y a aussi un jeu de textures qui donne un effet un peu brumeux, un peu qu'on retrouve moins dans celui-ci et qui marche franchement très bien. Donc je vais être hyper hyper franc, hein, je suis ressorti, j'ai pas tout à fait compris ce que j'avais lu, j'ai pas passé un mauvais moment. Je pense que il y a peu de texte dedans, donc ça permet aussi de le repasser une fois de temps en temps, de le relire, de peut-être s'attarder un peu plus sur certains textes pour pouvoir les analyser, voir plus de définitions. Donc c'est un bel album et il faut le lire parce que voilà, regardez, on a des fleurs, on a des choses comme ça qui poussent sur du blanc. Le côté très onirique passe vraiment à fond. Voilà, Nocturnos, Laura Pérez, ça sort le 1er avril. On vous en parle un petit peu en avant. Et puis ils ont sorti Terre ou Lune, donc que j'ai pas là, je reviendrai dessus certainement lors de la prochaine émission. Là aussi, ça parle peut-être un petit peu d'onirisme, ça parle de lune. Hein. Il y a quand même quelque
oui,
chose.
Oui, c'est sûr. Décidément.
Ouais. Mais je sais pas si je vais faire la transition avec le quatrième bouquin.
Oui, l'autre c'est une autre forme. Oui.
Oui, voilà. Mais un peu plus touchy.
Oui.
Mais Terre ou Lune, on aura le temps d'y revenir un peu plus tard parce que effectivement, ce serait mieux de pouvoir vous présenter certaines images sur YouTube. Mais un très bel ouvrage qui a été beaucoup encensé et que beaucoup de gens ont vraiment adoré avec une très belle narration. Mais on aura le temps d'en reparler. Je pense que tu auras le temps de le lire avant, Fabien.
Ouais, je vais essayer de lire ça. Ouais, tout à fait.
Et le dernier ouvrage qui est sorti en même temps, qui a voilà, ça parle un peu de sommeil quand même. C'est le procès des violences intrafamiliales à l'affaire Pellico de Julie-Émile Fabre. C'est un récit qui a été fait par une des dessinatrices qui était accréditée au procès de l'affaire Pellico. C'est pas une BD à proprement parler, c'est pour ça que je m'attarderai pas complètement dessus, même si je conseille cette lecture vraiment, puisqu'on va découvrir image par image le procès. Dessinatrice de procès, donc avec ce côté très, je sais pas quelles sont les techniques qu'on utilise en fait. Il y a beaucoup de crayonné, beaucoup de.
Ouais, c'est du crayon et de l'aquarelle généralement. Ouais, des fois du crayon de couleur aussi. Mais là, je pense que c'est l'aquarelle.
C'est plus de l'aquarelle.
Ouais, je pense que c'est l'aquarelle et du crayon. Ouais.
Et du coup, on a le récit de ce procès avec beaucoup de dessins, beaucoup d'informations. On a des passages avec un peu d'onirisme ou d'interprétation aussi à des moments. On a des passages plus glaçants avec des morceaux de témoignages. Comme tout le monde, j'en ai entendu un petit peu par les journaux, je sais de quoi ça parle, mais rentrer dans des détails beaucoup plus précis, bah, ça pose beaucoup de questions. C'est hyper, ça met un grand malaise, hein, et on se dit que voilà,
Je sais pas quoi dire de plus en fait. C'est juste important de lire ce genre de choses pour se rendre compte que bah, les monstres peuvent avoir un vrai visage hein, et que parfois ils n'ont même pas l'air d'être conscients de la monstruosité qu'ils ont pu avoir. Ouais. Je vais pas rentrer dans la philosophie, mais il y a beaucoup de passages où on a l'impression qu'ils se déresponsabilisent et ça me faisait penser aux expériences de Jemil Graham où on m'a dit de faire, c'est pas ma faute. Voilà. Mais voilà, lisez-le. Si vous avez entendu parler de ce procès, ben allez-y, parce que c'est très important. Vous aurez plus de détails, plus d'informations. Il n'y a pas de voyeurisme, c'est juste froid. C'est pragmatique, c'est tel que sont les faits. Et, voilà. Mais c'est pas une BD. Voilà. Donc. Les éditions Morgan, voilà, elles ont démarré cette année assez fort avec 4 bouquins, 2 qui tapent très très fort, 2 plutôt oniriques, et il y a vraiment pas mal de choses à découvrir. Donc voilà. Je vous invite à surveiller cet éditeur avec
attention.
Oui, voilà, attention. avant de rentrer dans le rock and roll avec Olivier, on va faire une petite pause musicale. J'ai choisi un petit morceau de musique rock. J'ai choisi un morceau qui s'appelle All in No du groupe Dogstar. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est juste le groupe de musique de Keanu Reeves. Ça va.
De
Keanu Reeves.
Ah, Keanu Reeves.
Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui.
Qui est bassiste.
Moi, j'ai jamais regardé ses vidéos YouTube où il fait de la basse, mais d'accord. Dans ce cas-là, c'est son groupe.
Eh ben, on pourra écouter ça. Okay. On se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G.
www.radio-g.fr.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. Vous venez d'écouter Dogstar avec All In Now. On est ensemble avec Olivier Martin qui va nous parler de son travail. Alors, pas forcément que du site. Hein. Je pense que tu vas nous parler aussi de ton travail en règle générale.
Oui, bah, ce que vous voulez, vous me dites. Moi, je suis là. Voilà,
eh bien, commençons par qui es-tu, Olivier Martin ?
Alors, qui je suis ? Alors, bonjour déjà tout le monde. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices, bien sûr. Alors, moi, je suis dessinateur de BD. Je suis d'origine angevine. Je suis habitant d'Angers depuis peu, mais j'ai vécu dans d'autres endroits. Et depuis, on va dire, 1999 à peu près, je suis édité chez différents éditeurs sur différents styles de récits. Ça peut être de la bande dessinée de fiction, en passant aussi par la BD documentaire. Ça dépend des projets, en fait. Voilà.
C'est des projets que toi, tu amorces ou c'est des projets vers qui, où on vient de chercher dessus ?
Alors, le truc, c'est qu'il y a plusieurs cas de figure, évidemment. Il y a eu des projets amorcés, surtout au début. Mmh. Et puis maintenant, de plus en plus, on vient me chercher. Ça, j'avoue, ça peut m'arriver aussi. Ça, c'est cool. Et aussi, des propositions. Voilà, c'est, ou des, entre guillemets, mariages. Tiens, on a ça dans les tiroirs. Est-ce que ça te branche? Il y a plusieurs cas de figure, en fait. Mais de moins en moins de projets que moi-même, je vais amorcer.
D'accord.
J'ai remarqué, ça, c'est une tendance. Peut-être que je fais partie de ce lot d'auteurs qui, un peu polyvalent, à qui on va demander, tiens, ça t'intéresse. Et puis peut-être qu'il y a un autre lot d'auteurs qui, eux, vont être générateurs de projets, hein, on les connaît. Moi, j'aime bien les aventures diverses et variées, donc c'est peut-être pour ça, justement, que je saute d'un projet à un autre et qu'on m'appelle des fois pour quelque chose. Alors je dis oui, je dis non. Oui, bien sûr, après, c'est moi qui choisis.
Oui, hein. C'est toi qui choisis. Du coup, j'ai piqué les questions de Bruno.
Jusque-là, ça correspond aux deux questions que je voulais poser.
Super.
Parce qu'effectivement, quand on regarde ton parcours, les thématiques sont très diverses. Hein. T'as fait des aventures de pirates, de la science-fiction, du fantastique, je cite pas les titres,
hein, oui, oui.
Du polar, de l'histoire, des récits historiques, la musique, on va y revenir. Et puis, il y a une thématique aussi qui te tient particulièrement à cœur, même si ça transparaît pas de façon prégnante dans ta bibliographie, mais c'est la nature, les animaux,
ouais.
L'écologie, on va dire.
Ouais, ouais.
Donc, je sais que Franck P, qui hélas nous a quittés...
Oui, oui.
En novembre 2025, c'était une de tes grandes influences.
Oui, oui, oui.
T'es un énorme dessinateur animalier. Mmh. Donc ça, c'est et puis ton dernier opus, hein, On a mangé la mer.
Et avant, l'incroyable histoire des animaux aux arènes.
Ah
justement.
Oui, tu vois, voilà, tu peux bien le reprendre. Il y avait Crypto aussi qui était.
Oui,
qui
oui,
parlait
mais
des
oui,
animaux.
Enfin, mais, oui, enfin bon, c'est pas très bien dessiné ça.
Tu te trompes dur avec toi.
C'est vieux.
Mais le docu BD sur la surpêche, qui est, t'as fait une conférence débat d'ailleurs au dernier festival BD d'Angers.
Ouais.
Donc voilà, c'est quelque chose qui est important pour toi.
Oui, en fait, peut-être comme vous d'ailleurs, je suis intéressé par plein de choses. Tant mieux d'ailleurs, c'est cool, parce que comme ça la vie est plus agréable. Effectivement, à la base, les animaux, le monde animalier, la nature. Les animaux, depuis... moi j'ai appris à dessiner en dessinant des animaux, hein, voilà. À l'école, après les cours, j'allais au CDI, et puis en attendant que ma mère vienne me chercher à l'école primaire, j'ouvrais des bouquins d'animaux avec un autre pote. Puis on dessinait toutes les photos. C'est pour ça que je connais bien les vieilles photos, des vieux bouquins animaliers. Et des fois, je voyais aussi même à l'époque des auteurs de BD et un petit peu moins maintenant, parce que maintenant avec Internet, les photos il y en a plein. Mais j'arrivais à reconnaître, ah bah ça, il a pris la photo de tel bouquin, ça, c'est repompé sur un tel. Et je voyais aussi les dessinateurs qui dessinaient mal les animaux, notamment dans des comics de Tarzan et tout, des trucs des pros, des Américains. J'ai putain, il est mal branlé son babouin ou son lion là, il a une petite tête. Bon après, ça, je faisais un peu mon kéké, mais j'étais un gamin, quoi. C'est normal, hein. On est comme ça quand on est gamin.
Il paraît quand même que c'est un des trucs les plus difficiles à dessiner, les animaux, pour les rendre crédibles, en fait.
Oui, il paraît, mais moi je trouve que tout est dur à dessiner, en fait, pour bien le faire finalement. Mm. Mais commencer par les animaux, c'est vrai que c'est une bonne école parce que il y a une variété de formes. Quand on dessine un animal, un gorille par exemple, ça paraît « Oh, facile, je vais faire un gorille ». Mais après, ça dépend comment tu veux le dessiner ton gorille. Est-ce que tu veux le faire d'une façon comique ? Est-ce que tu veux le faire d'une façon à la Rahan, à la, je sais pas, moi, à la Torgal, à la ce que tu veux, à la Moebius ? Donc après, il y a différentes approches graphiques. Et après, c'est ça, c'est une ramification en fait le dessin. C'est on commence à dessiner de manière instinctive. On commence en ayant des influences qui peuvent être des photos dans un premier temps, comme je disais tout à l'heure, le dictionnaire, le Larousse, des que sais-je, des bouquins qui sont insignifiants, et puis après, enfin insignifiants, qui sont pas des bouquins où on va chercher des images dessinées, et ensuite, parce qu'ils sont très signifiants au contraire, et ensuite, ensuite on s'intéresse à la BD. Moi, je me suis intéressé à la BD finalement en parallèle, mais j'étais pas un spécialiste de BD.
Tu vois, c'est quoi ton parcours?
Comment dire, tu veux dire au niveau de la BD?
Au niveau scolaire, tu te destinais à quoi avant de faire de la BD?
Moi j'ai toujours dessiné, donc je savais que ma vie ça allait être le dessin. Okay. J'ai jamais douté de ça en fait. Mais si tu veux, après le collège ici à Angers, je suis parti moi ensuite en art appliqué à Nantes pendant 3 ans. Ensuite j'ai fait un BTS, si tu veux tout savoir.
Tout savoir.
Un BTS expression visuelle image de communication. Donc c'est pour faire graphiste en fait. Donc ça, c'était à Montaigu, en Vendée. Ensuite, j'ai fait une année de Beaux-Arts à Nantes. Et puis ensuite, il y a eu l'armée. Et puis après, j'ai fait on a fait pas mal de choses avec les copains. Donc comme ça, on faisait énormément de planches, en fait. C'est comme ça que je me suis formé. J'ai participé à des concours de bande dessinée aussi, dans des festivals.
Okay.
Et j'ai gagné en 96 le festival de Perros-Guirec en Bretagne. L'invité d'honneur, c'était Moebius.
La classe.
Donc c'était mon dessinateur préféré.
Ça tombe bien.
Le festival était présidé par Loisel, Régis Loisel. Donc pas mal. Il y avait Rossi qui était invité aussi. Enfin, il y avait que des mecs comme ça.
Un peu de pression. Alors,
Ouais, mais non, mais moi j'ai fait mon concours et j'ai eu le premier prix. Première fois de ma vie que je suis premier. voilà. Et puis je suis chez moi. Je reçois un coup de fil. Je sais plus de qui. Bah, du président de l'époque, parce qu'ils ont changé depuis, de Perros-Guirec, du festival. Et puis, j'ai Loisel au téléphone, je sais plus pourquoi, parce qu'il m'avait proposé un scénariste, enfin bref. Et donc, du coup, il me disait qu'il avait corrigé 4 fautes. J'avais fait une planche, j'avais fait 4 fautes sur ma planche, et c'est lui-même qui les a corrigées à la gouache blanche dans les bulles de texte.
Ok.
Donc, voilà, j'ai une planche chez moi, à moi, évidemment, encadrée chez mes parents, parce qu'elle était encadrée, donc elle est restée dans son cadre depuis, et elle est, des corrections que je n'ai jamais réussi à voir d'ailleurs, mais elles doivent être là. Elles doivent être tellement bien faites que c'est Loisel qui les a fait. Donc voilà, et c'est comme ça après que j'ai mis le pied à l'étrier, parce qu'effectivement Loisel promet les trois premiers prix.
Ouais.
Et les présenter à un ami à lui, scénariste de bande dessinée, qui s'appelle Gian d'ailleurs, qui publie pas mal. Et puis j'ai monté un premier projet qui n'a pas vu le jour, et puis ensuite je suis arrivé chez Delcourt avec Les Pirates, effectivement. Et voilà, bref, donc je fais court là, mais voilà, ouais. C'est comme ça que la formation s'est faite en autodidacte en fait, par le biais du Fanzina, voilà, la production de magazines amateurs avec des photocopies qu'on vendait à l'école, ensuite en magasin BD à Nantes.
En convention, en festival.
Ouais, un petit peu de festival aussi, ouais, on croisait d'autres personnes qui sont après devenues soit des éditeurs, soit des dessinateurs de BD. On avait aussi d'ailleurs un Fanzine à Nantes qui s'appelait Sœurs de Béton. Et on organisait des concours de BD à l'époque. Et on avait organisé un premier concours, et c'est Jess qui nous avait fait la couverture.
Cool.
Sur le thème de la science-fiction. Et le deuxième concours, c'était Vatine, copain de Jess, qui nous avait fait la couve. Évidemment, les premiers prix gagnaient les originaux de ces deux grands auteurs. Et donc, le deuxième concours, c'était le western. Et dans les lauréats, il y avait un certain Riyad quelque chose. On lui avait donné un prix. Il a fait une BD réaliste avec des... Enfin, dans son style Petit Verglas, son premier album, là, un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'il dessine maintenant. Donc c'était marrant, quoi. Voilà.
Impec.
Alors, on a parlé des animaux, mais évidemment, ce qui nous amène aussi, c'est un peu le sujet central de ta présence, c'est la musique, et particulièrement le rock, puisque c'est là aussi quelque chose de très important pour toi. Tu as participé à des ouvrages collectifs chez Petit à Petit, sur Téléphone, sur Jacques Higelin, je vais pas tous les citer. Très récemment, tu as participé au hors-série spécial de Métal Hurlant sur le Hellfest,
ouais.
En compagnie de ton complice, Nicolas Barberon. Et où tu as fait un hommage à la déesse métal, hein, donc
oui.
Voilà, c'est une suite d'hommages, hein, ce hors-série sur le métal, sur le Hellfest.
C'est des gros clins d'œil à des gars comme toi.
Voilà, donc forcément, c'est bourré de ref, hein, ce hors-série, donc forcément, on se régale avec ça. Et on parle de rock, donc hormis ce que j'ai cité et sous réserve que j'en ai oublié, je suis pas sûr, mais en fait tu t'adonnes à un exercice très particulier qui est le dessin de concert. Donc au travers de ton projet avec Nicolas Barberon qui s'appelle Croc'n'Roll Live. Et le principe il est simple, hein, toi et Nicolas Barberon, vous allez voir des concerts jusque-là comme tout le monde. Hein. Sauf que vous, vous y amenez votre carnet de croquis et vos crayons et vous dessinez pendant le show. Jusque-là, je pense que j'ai
c'est
bon.
C'est ça, tout à fait. Ouais, 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 tout à fait.
Et quand on voit sur votre site, on mettra les références, mais c'est Croc and Roll Live, tout attaché. Attention, donc Croc and Roll Live, ça veut dire qu'il y a trois L qui suivent, .wordpress.com. Donc où là sont publiés, en fait, je pense, l'intégralité de vos dessins.
C'est sous base, ouais, quasiment, mais c'est une sélection quand même. Il y a des déchets.
Alors, j'ai cru comprendre que tu avais commencé à dessiner. Alors, quand j'ai regardé le site, j'ai cru comprendre que tu avais commencé à dessiner en concert en 2008 en allant voir Jacques Higelin.
Alors, non, j'ai dessiné, bien avant. Ouais.
Bien avant, donc, ouais. Tu vois. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que, après, dans l'historique du site, ça commence en 2012, a priori. Alors, c'est peut-être la publication et pas forcément la date du concert.
Alors, justement, oui, mais justement, j'y pensais avant d'arriver ici à l'émission. Quand est-ce que j'ai commencé à faire des croquis de concert avec Nico, justement, Nicolas Barberon, qui est lui directeur artistique chez Glénat. D'ailleurs, on s'est rencontrés dans les bureaux de Glénat. C'est comme ça qu'on est devenus amis et puis qu'on a partagé notre passion du carnet de croquis. Et notamment, donc, voilà, parce qu'à la base, il a fait un site sur le carnet de croquis dans le métro, enfin les transports en commun, en fait. Et ce sont je fais une parenthèse, mais son site pour le métro est là, et le RER et le train. Et là, sur les concerts, c'est des sites participatifs. Il n'y a pas que nous. Il y a eu d'autres personnes qui ont voulu, voilà. Donc, si quelqu'un autour de vous dessine et a envie de publier sur le site, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut quand même que ce soit de qualité. Il faut que ce soit lisible, évidemment, le dessin soit intéressant. Et puis aussi, il faut quand même écrire un petit résumé de ce qu'on a vu, nos ressentis. Il y a un petit rédactionnel à faire, voilà. Et tout ça, évidemment, c'est du bénévolat. Hein. Nous, on fait ça pour le plaisir avant tout. Et voilà. Donc, ça, c'était la parenthèse. Mais j'ai oublié ce que tu me disais. Tu me disais que tu
pouvais répéter la question, monsieur.
Non, c'était savoir. En gros, donc, t'as commencé dans les années 2000.
Alors, en fait, moi, je dessinais déjà des musiciens autour de moi avant de rencontrer Nico, avant d'habiter à Paris, parce qu'avant d'habiter Angers, là, récemment, j'étais à Paris, donc. Et je dessinais des amis musiciens qui jouaient sur scène ou en répétition. Déjà, j'avais déjà cette affinité à vouloir saisir l'instant musical, parce que bon, comme beaucoup d'auditeurs et passionnés de rock, de musique en général, bah ça fait partie de notre vie, quoi. Et puis moi, j'ai énormément dessiné en musique, énormément, et c'est aussi pour ça que je me suis mis à investir ça avec Nico. C'est que dessiner en live des styles musicaux que moi j'écoutais dans ma chambre quand je progressais en dessin, pour moi, c'est un juste retour des choses. Et alors après, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est que je me suis dit, bah là, je suis à Paris, parce que bon, j'ai vécu 18 ans à Paris avant d'arriver sur Angers, là, depuis 6 mois. Là, je me suis dit, mais attends, là, je suis à Paris, là, maintenant. Mais je vais pouvoir voir ça, 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 ça. Et je vais aller dessiner. OK. Et ben, c'est parti. Donc après, le but, c'était, enfin, le but, moi, dans mon truc, dans mon parcours, c'était, putain, alors maintenant, je vais me taper Metallica. Ah, si on pouvait se faire AC/DC. Et puis, bah, c'est ce qu'on a fait. On a aussi fait des gros noms comme ça. Alors ça, c'est kiffant, parce que t'es comme un, pour moi, c'est comme un photographe animalier, justement, on revient aux animaux, qui vit en France, et puis un jour, il a l'opportunité d'aller, par exemple, en Afrique, et d'aller se faire les fameux animaux africains, l'éléphant, la girafe, le rhino, etc., les Big Five. Bon, bah là, c'est pareil. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une adrénaline. Parce qu'il faut pas se louper, hein. Il y a aucun crayonné ni rien. C'est vraiment dessiné debout, avec plein de gens autour qui peuvent bouger.
Alors, j'ai une question par rapport à ça, mais que je pourrais poser plus tard, parce que c'est vrai que c'est quand même impressionnant d'arriver à avoir ce rendu-là tout en étant spectateur d'un concert. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais citer un autre grand fan de rock, auteur de bande dessinée, qui est Luz, et qui est aussi un spécialiste du dessin de concert. Il en a fait plusieurs albums, comme Faire danser les filles ou Claudiquant sur le dance floor. Et il a même fait une anthologie en 2017 qui s'appelle Alive, de ses dessins de concert. Est-ce que tu connaissais son travail avant de toi commencer à t'y mettre?
Non. Avant de commencer moi à m'y mettre, non, je connaissais. J'ai fini par connaître en étant sur Paris, parce que en plus Nico il connaissait tout ça. Mais non, pas du tout.
Des grands esprits se rencontrent.
Ouais, non, mais en plus j'ai jamais rencontré ce monsieur. Mais non, autrement non, moi c'est vraiment spontanément. Je vais même te dire que à l'époque de la fête de la musique en 1980, je sais pas 13 ou 12, au lac de Maine, il y avait une salle, une scène de concert là-bas. Et moi, j'avais fait installer avec une copine, on avait fait installer une énorme fresque, et on dessinait tout l'après-midi, on peignait, j'essayais de peindre tant bien que mal, je m'étais entraîné chez moi à faire Jimi Hendrix, Angus Young et tout. Bon, j'ai carrément foiré tout mon truc, c'était n'importe quoi, j'étais à la peinture, je pensais que j'allais y arriver. Mais c'est pas grave, ils étaient contents, la Maison du Lac, là, ça faisait une animation, et à côté, il y avait les groupes qui jouaient. Donc déjà, il y avait ce côté live qui me plaisait, quoi. C'est puis encore une fois d'être en contact avec une scène, putain, c'est quand même fort. Enfin, vous connaissez ça, on a tous expérimenté des concerts de différents styles musicaux. D'ailleurs, c'est pas forcément que le rock, mais le rock quand même, ça, quand c'est bien, ça, il y a un truc qui te, si t'as 42 fièvres, tu vas à un super concert, t'es plus malade après.
Ouais,
c'est fou, quoi.
Ou alors tu deviens malade. Moi,
ou alors tu tombes, quoi.
Tu tombes malade. Moi. Je me suis chopé un Covid grâce à Aaron Maiden.
Mais ah ça ouais, mais c'est Aaron Maiden, ça valait le coup.
D'ailleurs, je crois qu'il existe des festivals qui mêlent musique et BD. Alors, il y a eu une expérimentation, je crois, au Shabada, au tout début, avec de la techno. Il y a de ça très longtemps. Et il y a le Cabaret Vert aussi.
Le Cabaret Vert, ouais, complètement. D'ailleurs, j'y suis, on est nominé avec l'album Sur la Mer, justement, là-bas.
Trop bien.
Et on va y aller, là, au mois d'août, là, ouais, dédicacé. Ouais. Ce sera la deuxième fois que j'y vais, effectivement.
Bon, et là, du coup, il y a effectivement beaucoup de musique, il y a beaucoup de BD.
Oui, c'est ça. Oh, pardon, je te coupe. J'ai parlé par-dessus toi.
Pas de problème.
Alors, quand j'y suis allé, moi, c'était en 2019, je crois. Et je crois que ça a grossi depuis encore. C'est vraiment apparemment devenu énorme. Mais oui, puis là, par contre, c'est que tous les styles musicaux, hein, pop, rock, même métal, de tout.
Et même au Hellfest, il y a du coup de la BD aussi un peu.
Alors justement, on va pouvoir en reparler de ça parce que.
Hey Bruno.
J'avais une question. C'était, est-ce que c'est devenu systématique maintenant? Tu vas à un concert, tu prends tes codes? Non, pas forcément.
Bah non, en fait, c'est pas que c'est. En fait, ça a toujours été systématique, mais maintenant, je ne vis plus à Paris. Donc j'ai plus c'est plus aussi fréquent, quoi. Là, voilà,
là, c'est sûr.
C'est ça. Là, j'y vais samedi soir, je vais au Shabada d'ailleurs, il y a une soirée c'est du rap, ça me manque pas d'air, un truc comme ça. Bref, c'est un label qui fait une soirée. Donc je vais y aller avec mes carnets, mais après je sais que sur Angers, il y a Vanessa Paradis parce que j'y vais avec ma femme. Donc je vais la dessiner elle aussi. J'ai dessiné Johnny Depp au Hellfest, donc je vais taper Vanessa Paradis,
Lily Rose et puis voilà.
Oh bah Lily Rose, ouais, ouais, je sais pas.
Alors quand tu es en concert, qu'est-ce qui motive ton choix de faire tel ou tel dessin à tel moment du concert, je sais pas, par exemple quand c'est plus calme, ou alors est-ce que c'est complètement à l'instinct, un peu comme le fait de prendre des photos en fait, ou alors est-ce que tu te fixes des objectifs avant le concert?
Eh bien, en fait, à force de pratiquer ça, oui, il y a comme un instinct, comme un photographe effectivement. C'est, mais en fait, il y a aucune réflexion. Ça, c'est, il y a aucune réflexion. Et je pense aussi que c'est à peine explicable. Hein, c'est sûr que, mais moi, quand je vois ça, je me dis putain. Quand je reviens d'un concert après, parce que vous voyez les carnets qui sont ouverts, il y a de la couleur. La couleur, je la mets après. Hein, je fais pas ça pendant le concert quand même. Par contre. Voilà, ça c'est le produit brut, c'est-à-dire c'est un dessin noir et blanc qui, voilà, lui il a été fait directement comme ça dans le noir, enfin dans le noir avec la lumière du concert. C'est Skindred d'ailleurs, tu dois connaître Bruno Skindred.
Ah bah oui, voilà. oui, c'est toi qui m'as fait découvrir.
Ah oui d'ailleurs, oui c'est vrai.
Ouais.
Et donc voilà, donc après je rentre et je mets de l'aquarelle dessus.
D'accord.
Donc voilà, donc effectivement je vois une pose et je m'en saisis, mais c'est l'œil qui dessine et c'est la main qui suit ce que l'œil voit, en fait. C'est ça qu'il faut vous imaginer. C'est comme je pense que c'est comme les musiciens. Ils regardent même plus leurs instruments. Ils peuvent chanter en même temps ou le batteur, il peut chanter en même temps qu'il bat de la batterie. C'est la même chose. Je pense que c'est la même chose.
C'est quand même assez impressionnant parce que dessiner pendant un concert, c'est un exercice assez compliqué. Voir, en ce qui concerne le rock, assez périlleux.
Ouais.
Dans les concerts de rock, ça bouge souvent pas mal.
Ouais.
Les pogo, les slams. Donc, c'est quoi ta technique? Tu fais ton dessin d'une seule traite ou tu le fais en plusieurs fois?
Alors, en fait, non. Le dessin, il est fait pas en une seule traite, mais travailler sur un dessin, il y a des fois c'est calme, donc on peut poser des ombres comme si on était à sa table à dessin, tranquille. Hein, c'est pas toujours roman. Et puis il y a des fois, là c'est Foo Fighters, là ce dessin-là, c'était au Hellfest. Bon, j'étais assez loin, mais bon, je regarde. C'est pas l'écran moi qui m'intéresse, c'est de loin d'essayer de distinguer ce que je vois, comme si j'étais encore une fois dans la nature en train d'observer un animal en train de boire, quoi. Et voilà. Et justement, le dessin va devenir ce qu'il va devenir, en fait. Mais si je regarde bien, le dessin, il va être bon. la main va suivre elle. Il faut juste que moi je sois bien attentif, quoi. Et là c'est pareil, je peux dessiner quelque chose sans regarder mon papier. Il y a juste un truc qui est important, c'est que j'ai aussi beaucoup de pratiques. Moi, je dessine tous les jours, tout le temps. Il y a que quand je dors que je dessine pas. Donc j'ai une pratique, mon cerveau, mon corps, mon esprit, ils sont super entraînés.
C'est
hein.
Du pilote voilà. Automatique.
Donc quand je rejoins Nicolas Barberon, dont on parlait tout à l'heure, pour aller voir un concert, moi je suis chaud, quoi. J'ai dessiné toute la journée. Lui, il y va et il dessine comme un dératé. Lui, il va avoir quasiment un concert tous les soirs. Hein.
Ah ouais,
c'est impressionnant. Il a des tonnes de carnets qui s'accumulent, de retards, de postés qui sont pas encore postés sur le site Croc'n'Roll Live. C'est impressionnant. Moi, j'aime bien la fraîcheur, donc j'irai pas en voir autant, bien évidemment. Et puis là, maintenant, ça va être un peu moins, évidemment. Mais en tout cas, voilà, lui, il a besoin d'y aller parce qu'il est en manque de dessin. Parce qu'il est sur son ordinateur toute la journée. Donc dessiner pour lui, c'est comme c'est un boulimique de dessin. Mmh. Il est comme tous les dessinateurs et dessinatrices de BD. On adore dessiner. Et moi, par contre, et là, je veux peut-être te rejoindre ce que tu voulais savoir aussi. C'est que c'est aussi un exercice qui va nourrir mon dessin de dessinateur de BD. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que quelque part, là, je fais deux trucs en un. C'est-à-dire que je me fais plaisir en dessinant des gens qui s'amusent sur scène avec des tenues pas possibles, dans un style musical qui me botte à fond. Donc, du coup, je me force pas. Et en plus, j'étudie le corps humain. Je fais de l'anatomie. Je pose des masses de noir de manière comme ça, alors que chez moi je me serais posé 10 000 questions avant de me dire est-ce que je mets un trait là, est-ce que
là,
je mets un trait là.
T'as pas le temps de te poser la question.
Aucune question. Ouais, ouais. Donc là, et puis du coup après quand je bascule sur les planches de bande dessinée, eh ben ça tout s'imprègne en fait. Donc tout nourrit l'un nourrit l'autre, l'autre nourrit l'un.
Voilà. Moi, vas-y. J'ai une petite question. Du coup, comment tu décides que c'est ce moment-là? Parce que tu figes un mouvement, comme si ton œil c'était un appareil photo en fait.
Exactement, je pense que c'est ça, ouais. Mais attention, je me considère pas comme un appareil photo, je devrais m'appeler Olivier Nikon. mais je pense que ça doit être un truc comme ça. Parce qu'effectivement, quand la personne, la guitariste, elle est comme ça, le temps que je la dessine comme ça, elle est déjà rendue à l'autre bout de la scène, elle bougeait, clair. Quoi. Donc, mais par contre, ça soulève toujours plein de trucs. Là, plus je parle, plus j'ai des trucs qui me viennent. Comme pour quand je dessine un animal, par exemple, dans un parc, un zoo, par exemple, les animaux, ils ont l'habitude de revenir toujours aux mêmes endroits. Mmh. Et eux, les musiciens, c'est pareil. Ils viennent. Je me dis, bon, là, je laisse ce dessin-là un petit peu tranquille.
Ouais.
J'attaque là. Je vais sur un autre coin de la scène. Et puis après, parce qu'après, ils reviennent toujours au micro. Et puis, ouais. Ils se remettent toujours, ils ont toujours un peu des pauses qui reviennent, quoi.
Oui, les musiciens scène,
sont des animaux.
Hein?
La scène, forcément, elle est limitée. Donc
voilà, la scène est limitée.
Ça dépend des groupes aussi. Hein.
Ça dépend des groupes aussi.
Parce que les Pixies, je pense que t'as le temps de les.
Voilà.
Pour ne prendre que cet exemple.
Voilà, bah, tu vois,
t'as le temps de les faire tranquillement, les Pixies.
Tu vois, par exemple, celui-ci, c'est Stone Jesus. Mm. Et ben, les mecs, en fait, ils font, c'est du gros doom.
Ouais,
ils bougent pas du tout.
Oui, ça bouge pas trop sur le doom.
Bon. Donc, j'ai fait un dessin, comme si j'étais au bureau, quoi. Là, c'était trop calme. Mais des fois, quand c'est trop calme, je le fais chier. Mm. Il faut que je me fasse bousculer.
Ce que disait Luce, c'est que si le dessin est réussi, c'est que le concert était chiant.
Ah oui, c'est vrai. C'est, oui, alors,
c'est ce qu'il m'avait dit dans une interview.
J'irai pas jusque là, parce qu'un un petit dessin esquissé comme ça, c'est bien aussi, mais.
Voilà. Ouais, donc on va conclure parce que c'est vrai que c'était super de pouvoir échanger.
Non,
le temps passe. Je voulais juste te dire, il y a le site avec beaucoup de dessins faits par toi et Nicolas Barberon. Il y a eu vous avez édité un carnet de croquis, un Croc'n'Roll Live, hein, tout bêtement, qu'on peut montrer. Est-ce que vous envisagez de rééditer d'autres carnets?
Alors, celui que tu montres là, c'était il y a quelques années, mais il y en a eu d'autres de faits depuis.
Ah, tu vois, je suis un peu largué.
Voilà. Alors après, c'est Nico qui se charge de tout, maquettage et tout.
Alors on les trouve sur le site.
Sur le site,
j'ai pas vu de lien.
Non. Bah justement, il faut dans ce cas-là, faut aller sur Facebook, sur le Facebook de, faut aller demander en message privé à Nicolas Barberon, voilà, et il vous donnera
okay,
tout ça.
Ça marche. Bah écoute, super.
Bon, merci, on fait beaucoup. Une petite pause musicale.
Ouais,
on aura sans doute quelques questions et puis on laissera la chronique de Fabien pour conclure. T'as quoi, t'as 5 minutes à peu près?
Oui, même pas, à peine. Et puis, s'il n'y a pas le temps, ça sera pour une prochaine fois.
Ok. On se fait une petite pause musicale, histoire de se décrasser un petit peu les oreilles. Je vais sélectionner un petit truc, je sais pas si vous connaissez, Queens of the Stone Age, mentionné, exactement. Avec Song for the Deaf. On se retrouve tout de suite après sur le 100.5 de Radio G.
The Deaf, that is for you. Radio G. www.radio-g.fr.
Eh ben, on est de retour sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours la caisse de Seb. Je viens de couper le live stream. C'est pas grave. On le relance. On a loupé un truc. Hop. Voilà, voilà. On est toujours avec Olivier Martin. On parle toujours de rock and roll.
Et de bande dessinée.
Et de bande dessinée. Et de bande dessinée pendant des concerts de rock.
De dessin de concert.
De dessin de concert, pardon. Croquis, c'est pas de la BD.
Non, 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 c'est du croquis.
T'as pas fait de BD sur un groupe de rock ou un...
Non, j'ai postulé pour un projet chez Petit à Petit, mais je sais pas où ça en est.
D'accord.
Voilà.
Peut-être un jour.
Bah, peut-être, oui, mais bon, tu sais, c'est des collectifs, hein, donc, voilà. Non, l'idéal serait de faire un truc soi-même, quoi. Un
ouais.
Truc, voilà. Faut trouver un sujet.
Alors c'est une question du coup que peut-être Bruno avait, mais il y a pas mal de bandes dessinées musicales ou portées par des groupes musicaux. Est-ce qu'il y en a une ou deux qui t'ont fait kiffer? Je sais pas, Kiss Psycho Circus des choses comme ça. Mmh. Perkeros, qu'on aime beaucoup avec Bruno.
Bah je lis plus assez de BD pour savoir ce qui se passe. Non, j'ai dans les trucs nouveaux, j'ai pas de ref.
Faut que t'ailles sur mon site.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Sûrement des choses que t'as lues.
Ouais.
Non, mais c'est. Je pense que c'était bon. Aussi, on va conclure suite là avec l'interview donc avec les références.
Ouais, on conclut avec les références. Du coup, la question, où est-ce qu'on peut te retrouver, Olivier? Différents réseaux.
Eh ben, au Monoprix d'Angers, Biocoop, quand je fais mes courses. Oui, alors moi, j'ai un Instagram. Olivier-Dubas, Martin-Dubas, Art.
Ok.
Voilà. J'ai deux Facebook. Voilà, Olivier Martin, facilement trouvable. Dont un qui est le logo, enfin qui est un des personnages de couverture de la mer. Et l'autre c'est OEM avec en sigle ACDC, voilà. Et autrement, j'ai un vieux blog qui traîne.
Mais le site Croquenroll Live.
Et le site Croquenroll Live, bien sûr, là vous pourrez voir moult dessins de ma part, de Nico, puis plein d'autres dessinateurs qui ont pu participer.
Est-ce qu'il y a des projets à venir dont tu aimerais donner quelques petites touches ou
Ouais,
ta prochaine BD, ça parle de quoi?
Ma prochaine BD alors là, je suis sur une adaptation d'un livre qui se passe au Japon.
Ah. OK.
Voilà.
Eh, hey, oh le là lien là, est
vite. Je crois que je fais l'enchaînement.
Oh, le talent.
Magnifique. Pour notre ami à côté.
Eh bien, merci Olivier. Ça va être à
merci
toi
à vous.
Fabien.
Ouais,
tu
me
parles de quoi ce soir?
Eh ben aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une lecture pas comme les autres. C'est-à-dire qu'on va partir avec Anjin San, donc qui est un livre qui a été édité chez le Lézard Noir. Donc c'est un seul gros tome puisqu'il fait 464 pages. Donc on est sur un one shot et c'est un vieux titre puisqu'il est paru au Japon en 1982, mais
ah oui.
Arrivé chez nous en 2012.
Ah, il y a un petit décalage horaire.
Ouais, comme il y a eu beaucoup avec ce genre d'œuvres un peu anciennes qui sont arrivées plus tard chez nous. Donc là, on va être sur la tranche de vie un peu sociale, dans le thème un peu Gekiga. Je vais expliquer un petit peu aussi ce que c'est. Et donc, on va partir découvrir un peu la spiritualité bouddhiste, donc avec Anjin San de George Akiyama. C'est un recueil de 23 petites histoires courtes, des contes, qui nous parlent de la vie tout simplement. Imaginez une série de petites rencontres. Ici, un moine en quête de vérité. Là, une famille qui essaie de rester soudée. Ou alors, un deuil à partager. Au travers de ces personnages, George Akiyama explore les questions essentielles que l'on se pose tous un jour ou l'autre sur le bonheur, la perte d'un être cher ou la force de nos désirs. À chaque fois, ce sont de petites fables. On suit un personnage récurrent, ce fameux Anjin, qui traverse ses contes. Il n'est pas là pour donner de grandes leçons de morale, mais juste pour observer les humains avec beaucoup de tendresse et de recul. Ce qui m'a touché, c'est la justesse des sentiments. L'auteur nous montre tel que nous sommes, avec nos petits défauts et nos doutes, sans jamais nous juger. On y parle de liens familiaux, d'amitié ou de deuil, mais toujours avec beaucoup de vérité. Et rassurez-vous, ce n'est pas un livre triste. Il y a aussi une petite pointe d'humour. C'est un humour un peu décalé, qui vient des situations de tous les jours. On se moque gentiment de nous-mêmes, en fait. C'est cet équilibre entre l'émotion et le sourire qui rend le livre si attachant. Visuellement, c'est un titre qui appartient donc au genre Gekiga. Pour faire simple, c'est un style de manga né pour raconter des histoires plus sérieuses et réalistes destinées aux adultes. Comme ça a été dessiné dans les années 80, le trait a ce côté un peu old school, très épuré, un peu rond, et avec très peu de décors.
Les pages respirent, elles sont pleines de blanc. En n'encombrant pas notre regard avec des détails inutiles, l'auteur nous oblige à nous concentrer sur les visages, les expressions et le texte. C'est un style qui convient très bien pour se poser et laisser place aux émotions sans être distrait. Personnellement, j'ai passé un excellent moment à lire cette série. Le mot qui m'est venu quand j'ai refermé ce livre, c'est le mot « apaisé ». C'est une lecture qui vide la tête, qui remet les idées en place et qui fait du bien, avec ce petit personnage rondouillard plein de calme et de sérénité. Je ne peux que vous conseiller de foncer sur cette lecture, qui peut se lire aussi bien d'une traite ou en piochant quelques contes par-ci par-là, au gré du temps qu'on l'on a.
C'est top. Tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de décors, il y a quand même pas mal de décors, je trouve.
Alors, il y a des décors, mais ça reste souvent assez épuré. On a beaucoup de blanc.
Le dessin est assez aéré. Ouais.
Le dessin est aéré, oui. Voilà, c'est plus ça. Voilà, c'est ce côté très aéré, en fait. On a pas plein d'ancrage ou plein, on est sur quelque chose d'aéré comme ça. Et le mot c'est apaisant. En fait, on se sent bien quand on lit l'histoire avec ce petit personnage là qui nous ramène ce côté un peu bouddhisme, mais sans le mettre du tout en avant. La religion est pas du tout le centre.
Oui.
Mais on sent qu'il a ce petit côté là pour amener un peu les gens à réfléchir et à se poser en fait sur les scènes qui se passent.
C'est les influences japonaises, ouais.
Oui, tout à fait.
Ok. Je te laisse redonner les références.
Ouais, donc c'est Anjin-san, c'est sorti chez Le Lézard Noir de Georges Akiyama. Ça fait 464 pages pour 22 euros.
Oui, quand même. C'est le tarif, le ratio...
c'est raisonnable en termes de ratio prix-page, on est bien là.
Parfait. Eh bien, alors qu'on se quitte, on remercie encore une fois Olivier Martin d'avoir été présent avec nous. Tu reviens quand tu veux.
Ah bah, vous m'invitez quand vous voulez. Merci de votre accueil en tout cas. J'ai passé une très bonne soirée.
Bruno, tu voulais rajouter quelque chose?
Je m'aperçois que j'ai oublié de te poser une question par rapport à Croc'n'Roll Live, si on a le temps.
Très vite.
Est-ce que tu as une ou deux anecdotes originales qui te sont arrivées en concert, justement liées au fait que tu dessinais
J'ai très peu de temps, mais spontanément, ce qui me vient, c'est un des premiers concerts que j'ai fait à Paris, à l'Olympia, en dessinant comme ça. C'était un concert du fils de Frank Zappa, Dweezil Zappa, qui jouait son père, Zappa Play Zappa. Il a fait toute une série, il a fait toute une tournée, il a même fait des disques, je crois. Et puis à la fin du concert, tout s'est allumé, puis on pouvait aller au pied de la scène, puis il signait des autographes, il signait des trucs. Il était sur la scène avec les autres musiciens, comme ça. Puis nous, on était là, on montrait. Puis j'ai mon pote, c'est lui qui m'a fait d'ailleurs découvrir Zappa à l'époque, et qui m'a dit, vas-y, montre-lui ton carnet. Il t'inquiète pas, il est sympa, il n'y a pas de problème. J'étais une des mains qui tendait quelque chose vers lui, comme ça. Il a pris le carnet, il dit, oh, nice. Il a pris son crayon, puis il a signé Dweezil sous mon carnet. Puis voilà. J'ai un autographe de Dweezil Zappa dans un de mes carnets. De lui que j'ai dessiné en concert, donc pendant le concert, à l'Olympia. En 2008 ou 2009, ou 2010, je sais plus.
Eh ben, parfait.
Voilà.
On va se quitter là-dessus. Encore merci. Je réitère là. Tu viens quand tu veux.
Eh ben, c'est surtout, vous m'invitez quand vous voulez. Moi, je vais pas m'imposer.
Tous les 15 jours, si tu veux venir.
D'accord, ok. Pas de problème. Bon, je vais finir par faire une chronique.
Pourquoi pas, si ça te tente.
Quelque chose me dit qu'on aura un prétexte pour te réinviter la fin de l'année.
Oh, bah oui, d'ici la fin de l'année.
C'est parfait.
Largement.
Voilà. Eh ben, écoutez, vous allez pouvoir retrouver le podcast dans quelques instants. On se retrouve dans 15 jours. Merci à vous, mes chers camarades. Et on se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles lectures. En attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Ah bah vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Trompez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? C'est fini!
It was so bright, so bright, so bright that I forgot about the dark. it was so bright.